Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro un petit peu spécial parce que je vais beaucoup parler et nous allons écouter assez peu de musique. C'est un numéro également assez spécial parce que je vais vous dire tout simplement ce que j'ai sur le cœur, ce en quoi je crois pour la musique liturgique. Et en fait, ça me permettra tout simplement de vous exprimer pourquoi, semaine après semaine, je vous parle à ce micro pour que vous puissiez découvrir des splendeurs de la musique liturgique, mais également le sens de mon travail que je fais à la Basilique Saint-Sernin à Toulouse en tant que chef de chœur à la Schola Cantorum. Donc je voulais que les choses soient tout simplement le plus transparent possible et que vous puissiez comprendre le fond de ma pensée afin qu'on puisse avancer dans la même direction. Je pense que c'est assez capital. Je prends la parole parce que quand on fait mon travail, eh bien, il y a certaines personnes qui parfois ne comprennent pas. Il y a des malentendus qui peuvent donner lieu à des incompréhensions. Et c'est cela que je veux désamorcer en prenant la parole et en montrant que finalement, même s'il y a différents chemins qui sont possibles, nous tenons tous à aller vers la même direction. Et c'est cela qui m'intéresse véritablement. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement vous parler de pourquoi je fais ce travail-là et pourquoi je le fais de cette manière-là. Je voudrais commencer tout simplement en évoquant les textes dans lesquels je me suis plongé, notamment ceux de Vatican II, parce que vous n'êtes pas sans savoir, bien entendu, je vous en parle assez régulièrement, qu'il y a eu un changement dans la musique liturgique, et notamment catholique, à partir du Concile Vatican II. Pourquoi ? Parce qu'avant, eh bien, il y avait la messe qui était dite en latin, les chants étaient en latin, et donc on pouvait s'appuyer sur un patrimoine absolument extraordinaire, du grégorien jusqu'au Concile. Donc vous doutez bien, pléthore de morceaux avec des immenses maîtres qui ont pu composer des chefs-d'œuvre. À partir de Vatican II, les choses ont changé, c'est-à-dire qu'il y a été mis en avant, entre autres choses, nous y reviendrons, la participation dite active de l'Assemblée permettant de chanter les chants, et notamment en langue vernaculaire. C'est ce qui a ouvert la porte à de très nombreuses compositions, et ce qui fait que, en fait, depuis les années Vatican II, on a eu un tout nouveau répertoire qui s'est créé, dans lequel aujourd'hui nous sommes dans l'immense majorité des cas, et notamment ici en France. Parce que moi, bien entendu, je vais parler de ce qui nous intéresse et du fait que vous l'ayez sûrement vous vécu. J'ai dit que nous y reviendrons, donc on y revient tout de suite. La participation active de l'Assemblée, elle est effectivement au centre des préoccupations des textes de Vatican II, mais qui ne met pas sous le tapis le reste. Si on est attentif au texte, et c'est ça qui est très important, déjà la première chose, c'est qu'ils disent que le chant grégorien reste le chant de l'Église catholique. Ça, c'est très clair, ça apparaît très clairement. Or, aujourd'hui, si vous entrez dans une église, je vous le mets dans le mille, et bien finalement, vous n'avez pas de chant grégorien, ou très très peu. On en entend parfois, alors parfois aussi c'est les bribes de ce qu'on a pu entendre dans notre enfance, mais aujourd'hui, le chant grégorien, ben, j'ose le dire, est assez mal vu parfois, parce qu'il est vu avec comme si c'était du conservatisme, ou que c'était que chez les tradis finalement. Et rien n'est moins vrai finalement. Par exemple, à Lourdes, si vous allez à Lourdes, les chants qui sont le plus entonnés par les gens du monde entier, eh ben figurez-vous que c'est le Credo 3 qui est chanté en grégorien et qui finalement est extrêmement, bon, déjà très festif, très beau, et qui permet à tout le monde de s'exprimer. Donc finalement, il y a là quelque chose qui, à mon avis, est à sauvegarder. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du grégorien, mais c'est quelque chose que j'essaie de défendre, non seulement parce que c'est notre patrimoine, mais également parce que le grégorien, alors ça, j'ai fait quelques émissions dessus, a beaucoup irrigué certaines splendeurs de la musique chorale, et même jusqu'à nos contemporains. Donc c'est, à mon avis, un trésor à conserver. Donc, dans les textes de Vatican II, il y a bien cette prééminence du grégorien qui, dans les faits, aujourd'hui, n'existe plus. Il est également fait mention de la place des chants. Et là, on rentre dans le vif du sujet, à mon sens, c'est-à-dire celui de se tourner vers le beau. Et il y a beaucoup de sens dans l'esthétique, dans les paroles, et également dans la catéchèse qui est faite par la musique. Et c'est ce que moi, j'essaie de défendre avec tout ce que je mets en place en vous parlant de musique liturgique. Vous remarquez bien que je parle souvent de musique liturgique et pas de musique sacrée, parce que les chants sacrés, la musique sacrée est extrêmement vaste. Mais la musique liturgique, c'est celle qui s'applique pendant la messe. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute par exemple de la musique sacrée, comme, je sais pas, le Requiem de Verdi par exemple, qui est une page absolument extraordinaire du chant et de l'orchestre, aujourd'hui, cette page sacrée ne peut pas être perçue comme liturgique. parce que c'est gigantesque, parce que c'est presque du bel canto, ça aurait presque plus sa place à l'opéra que dans une église. Et donc moi j'essaie vraiment de faire cette distinction entre les deux, et à chaque fois de vous présenter des œuvres qui sont propres à la liturgie ou qui ont un grand sens liturgique. Et ça, je le distingue bien sûrement parce que il est possible que parfois, quand on essaie de chanter un beau motet lors d'une messe, eh bien, il soit fait la critique suivante, c'est-à-dire que bah, c'est un petit peu une messe-concert. On vient, on écoute, alors certes, c'est très beau, mais finalement, où est le reste? Et c'est là que moi, j'essaie d'exprimer quelque chose avec la musique que je fais chanter à mes chœurs, par exemple. C'est celui. Un, d'un patrimoine qui me semble extrêmement important de préserver, exactement comme un beau vitrail, un beau bâtiment. Et deux, parce qu'il y a un sens esthétique qui témoigne de ce qu'est la foi à une époque donnée. Par exemple, le chant grégorien témoigne de tout ce qui se faisait au Moyen Âge et la façon dont on vivait sa foi au Moyen Âge, notamment avec un énorme travail sur l'acoustique des lieux. Ensuite, vous avez des choses extrêmement différentes sur le baroque. Bon, je vous avais parlé des grands motets il y a un certain temps. On peut transposer ça au 19e siècle avec la musique romantique, avec beaucoup d'intériorité. Le 20e siècle avec une sorte de déstructuration. Et finalement, il y a dans la manière dont on vit la musique, en fait, sa propre foi. Et c'est cela que je trouve extrêmement intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas bannir ces choses-là, car c'est le fondement de notre foi. Donc ça me semble être extrêmement important. Ensuite, il y a une question qui est purement esthétique. C'est-à-dire que ça, c'est le constat que j'ai fait et qui aujourd'hui est un petit peu clivant. On se retrouve face à une forme d'uniformisation de la musique liturgique. Et ça, je le regrette et je le déplore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans une paroisse, dans n'importe quelle église de France, on va dire dans 90% des cas, en fait, vous chantez la même chose. Alors c'est très bien dans la mesure où, eh bien, on se sent un petit peu chez soi, on n'est jamais perdu, il y a quelque chose de l'ordre de la participation. Et alors là, on est en plein dans la participation active qui fonctionne, qui est louable et qui fonctionne bien, force est de le constater. Mais moi, je me dis, en fait, tout ce qu'on entend dans les églises, c'est un millionième de ce qui a été composé pour l'Église. Et ça, je le regrette parce que je me dis, on passe à côté de certains chefs-d'œuvre, et en fait, les chefs-d'œuvre deviennent des pièces de musée. On va contempler ça soit de manière distanciée parce que, bon, bah, effectivement, ça sent la naphtaline, ou alors, bah, en fait, ça a sa place dans une salle de concert. Rien n'est moins vrai, à mon sens, parce que il y a beaucoup de sens caché. Vous le savez, quand je vous parle de certaines des œuvres, en fait, je vous dis, mais voyez là l'intention musicale qui est mise ici, voyez là l'appui sur le texte, voyez là l'harmonie, comment elle va enrichir le texte vis-à-vis de ce mot-ci en particulier. Et ça, c'est un travail qui a été fait par des gens qui avaient infiniment talent, infiniment inspiré, et je trouve dommage de jeter ça aux oubliettes parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qui méritent d'être entendu. Alors, je vais peut-être un petit peu couper ma diatribe avec de la musique pour vous faire comprendre ce que je veux dire. On va partir dans des temps un petit peu anciens avec Victorien, un compositeur, vous savez, que j'aime bien, de la Renaissance, qui a composé de nombreux chefs-d'œuvre. Et alors là, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire chanter à Saint-Sernin, Jesu Dulcis Memoria. Vous allez le voir, ici, tout est dans la démonstration de ce que je vous disais. Vous avez un texte finalement d'une très très grande beauté, d'un très grand calme, et vous avez ce sens de l'harmonie qui arrive, qui est ici prédominant et qui porte, à mon sens, la prière.
Thank you.
en moins de 2 minutes, tout est dit, c'est ce que je trouve absolument extraordinaire avec ce genre de musique-là. Bien entendu, impossible de laisser ça aux oubliettes et de laisser ça dans le passé. Parce que quand vous avez un motet comme ça, qui peut avoir lieu par exemple après la communion, là où l'esprit doit être disponible, eh bien, pour prier, je trouve que c'est ce qui porte le mieux la prière. Et d'ailleurs, je voulais mettre en avant quelque chose qui est assez intéressant dans la réflexion des liturgistes à propos des textes de Vatican II, c'est la place du silence. Parce que là aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Aujourd'hui, je le déplore un petit peu, eh bien, on intervient un peu à tort et à travers, on chante un petit peu à tire-larigot, et en fait, ce qui devrait être aperçu comme un petit bijou, parce que en fait, on y met quelque chose en plus, parce que quand on chante, naturellement, c'est quelque chose en plus. Alors, ça a commencé dans l'histoire avec les premières psalmodies, hein, qui se faisaient d'abord sur une monodie, mais finalement, le fait de chanter, ben, ça prouve qu'on ne fait pas ça ailleurs, puisque quand vous exprimez au quotidien, vous ne chantez pas. Et donc, le fait de chanter prouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, chanter doit toujours être spécial. Et alors, sur la place du silence, il y a quelque chose d'extrêmement étonnant. Eh bien, il y a les chants, finalement, des motets qui sont mis dans le silence, et même l'orgue. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en gros, la musique fait partie du silence et vient intrinsèquement le sublimer et donc porter la prière. C'est ce que je trouve qui est extrêmement important et qui parfois manque à certaines de nos réflexions et qui devrait, à mon sens, hein, là c'est uniquement ce que je pense, revenir au centre de certaines de nos liturgies. Moi par exemple, j'aime beaucoup ce qui se fait chez les moines. Alors j'ai la chance d'être à côté de l'abbaye d'Encalcate avec extrêmement d'intériorité. Là aussi, c'est les goûts de chacun. Moi, les textes qui me parlent, c'est quand Dieu vient dans une brise légère ou quand il réveille Samuel et on ne sait même pas que c'est lui finalement. Et on doit s'y reprendre à plusieurs fois, on doit prêter l'oreille, on doit être attentif et c'est là où on se dit « Ah mais finalement là, il y a quelque chose, il y a un trésor. » Et c'est ce que j'essaie, moi, de faire très modestement avec la musique. Là où il y a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'effectivement, eh bien, on est vite taxé de conservateur ou de réactionnaire quand on a ce genre de discours-là. Ça arrive parce que les chants sont en latin, parce que, effectivement, bah, les gens ne peuvent pas forcément en participer. En soi, ce sont des vraies remarques qu'il faut naturellement prendre en compte. On ne peut pas, aujourd'hui, imposer toute une messe parfaitement en latin sans que les gens n'y comprennent rien, parce que sinon, la communion perd un petit peu de son sens et que les gens ne se sentent plus aussi impliqués. Et là, je trouve que c'est dommage et ça met par terre tout ce qui a été demandé par Vatican II. Mais d'un autre côté, le choix de l'Église, ça a toujours été celui d'être un petit peu à rebours de son temps. Donc certes, et c'est ce dont on se rend compte véritablement quand on lit les textes de Vatican II, c'est qu'on ménage un petit peu l'ancien et le nouveau, en bonne intelligence. C'est-à-dire que oui, il y a une participation effective de l'Assemblée, et d'ailleurs, elle est demandée sur des endroits bien spécifiques. Par exemple, le Credo, par exemple, le Gloria, et par exemple, le Sanctus, qui doit vraiment être professé. Et il est même dit que si les gens ne peuvent pas le chanter, parce qu'on prend quelque chose d'un petit peu ardu, eh bien les gens peuvent le parler, le dire, en même temps qu'il est chanté. Donc c'est vraiment l'importance du texte et la foi, la profession de foi qu'il y a derrière, qui est importante. Et c'est également ce qu'il faut souligner dans certains des chants que je mets en avant. Si à chaque fois je vous en fais l'analyse, parce que je vous donne pas comme ça des morceaux pour que vous puissiez les écouter, les apprécier, hein, je vous les explique, parce que il y a souvent un message qui est caché derrière, et je pense qu'aujourd'hui, on passe un petit peu à côté de ce genre de musique-là. Alors, je ne vais pas dire que tout ce qui est créé aujourd'hui est médiocre, on est très 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 loin de là. Le problème, c'est que les choses se font un petit peu moins facilement qu'avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Église est moins chevillée au corps avec les artistes. Il fut un temps où l'Église payait les artistes, que ce soit pour peindre les plafonds de la chapelle Sixtine ou alors faire des commandes auprès notamment de Victoria. Aujourd'hui, l'Église, ayant beaucoup moins de moyens, eh bien forcément, il y a moins de commandes qui se font, il y a moins d'émulation qui se fait autour de l'Église. Et moi, je le regrette particulièrement parce que ça permettait d'avoir une certaine idée de la transcendance. Vous vous doutez bien qu'au Moyen-Âge, quand les gens n'avaient pas forcément accès à l'instruction, quand vous rentrez dans un bâtiment qui fait 30 mètres de haut, avec des vitraux qui sont une véritable catéchèse, un petit peu de choses qu'on ne comprend pas forcément, avec des chants incroyables, et bien forcément, difficile de ne pas être touché. Et même aujourd'hui, quand on pense à la conversion de Claudel, qui entend les vêpres à Notre-Dame de Paris, et qui crut, il le dit comme ça, je crus, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la conversion par la beauté et par l'esthétique qui doit être, à mon sens, conservé. Alors, je ne dis pas que tout le reste de musique ne peuvent rien faire, n'anime pas la foi ni rien, mais je pense que ce grand répertoire-là ne doit pas être oublié, absolument pas être oublié. Alors, certains me diront, et ils auront raison, mais oui, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais vous avez une Scola qui marche très bien avec des super chanteurs, vous êtes à Saint-Cernin, il y a un orgue de dingue, forcément, pour vous, c'est bien facile d'aller chanter du Victoria à toutes les messes. Évidemment, ce n'est pas possible de faire ça partout, et même je pense que ça serait contre-productif. Il y a pour moi l'ordre de la cohérence. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'être à Saint-Cernin, qui est un bâtiment qui a une certaine histoire, et moi j'essaie tout simplement d'avoir un lien de cohérence avec l'histoire musicale de la basilique. Évidemment, ça n'a pas de sens de faire ça partout, et ça n'a pas de sens de faire ça si on n'a tout simplement pas de chorale qui connaissent cette forme de musique, ou d'ailleurs qui ne l'apprécient pas, ça peut également exister. Donc l'objectif, quand je vous dis cela, c'est absolument pas d'être messianique en disant « bon alors, c'est ça ou rien, il y a d'ailleurs que ça qui vaut, le reste est à jeter à la poubelle », absolument pas. Ce que je pense, et j'en suis intimement convaincu, c'est, je reviens à mon premier propos sur le fait que la musique soit assez uniforme, il y a des endroits, il y a des circonstances, il y a des messes bien spécifique, où l'on doit avoir quelque chose de différent. Et c'est ce que j'essaie de faire en faisant découvrir ces musiques-là. Et moi-même, je peux vous dire que ça me nourrit, parce que je suis pas omniscient, et alors parfois je tombe sur des pépites et je me dis, mais quand même, mais là on a voulu dire quelque chose d'assez extraordinaire. Et je me souviens une fois, alors ça c'est une petite anecdote un tout petit peu provocante, j'avais la chance d'être à côté de Michel Bouvard, titulaire de Saint-Cernin, qui me disait, après avoir joué une pièce extraordinaire de Jean-Sébastien Bach, bon courage pour le prêtre pour faire une homélie aussi réussie. Et c'est vrai que parfois la catéchèse est telle dans la musique qu'on fait, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors, c'est le propre de la musique, c'est dit dans l'indisciple, c'est dit dans le non-dit, mais c'est ça qui est beau. Et il faut avoir cette espèce d'ouverture d'esprit, d'ouverture à la beauté, d'ouverture à l'esthétique, qui, moi, je le retrouve dans ma foi par le fait de tendre l'oreille aux appels du Seigneur. Il y a toujours cette disponibilité du cœur et des oreilles que j'essaie de prôner pour pouvoir recevoir ce genre de répertoire. Évidemment, c'est un petit peu plus exigeant, il faut y être attentif, il faut avoir du temps, exactement comme vous allez écouter une musique, vous allez mettre le disque, vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas de machine à laver qui tourne à côté, vous allez vous asseoir confortablement dans votre canapé et vous allez écouter. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est se rendre disponible. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à la messe qu'on peut faire ça. On vit dans un monde où on est tellement à 200 à l'heure que, en fait, si pendant une heure ou une heure et demie, on ne peut pas avoir un moment hors du temps et hors du commun finalement, l'Église passe peut-être à côté de ce qu'elle peut proposer de plus beau. Ce que je voulais vous dire également, en parlant de tout à l'heure, j'avais parlé un petit peu de naphtaline pour être un petit peu provocant, c'est que ce genre de qualité musicale aujourd'hui n'est pas perdu. C'est pas une querelle des anciens et des modernes que j'essaie de vous faire. Aujourd'hui encore, il existe des artistes absolument extraordinaires qui font des choses incroyables d'un point de vue musical. Je vais vous parler maintenant de Arvo Pärt. Vous savez que je l'aime infiniment en vous faisant découvrir son Dapacem Domine. Vous allez voir que c'est une commande qui a été faite par Jordi Savall, là aussi un immense musicien, dans le cadre d'un concert pour la paix. Donc pas forcément liturgique à la base, mais finalement vous allez voir Dapacem Domine s'est installé avec tellement de présence de Dieu et de calme et de paix qu'effectivement le pari est réussi, et en plus vous allez l'entendre très certainement, Arvo Pärt fait beaucoup de clins d'œil à l'ancienne musique, donc là aussi une belle continuité musicale sur les siècles. Thank you. Da Pacem Domine d'Arvo Pärt. Effectivement, là aussi, le pari est tenu. Vous vous rendez bien compte que on est dans quelque chose de totalement extraordinaire. Je vous parlais de temporalité, de disponibilité de l'esprit. Il est évident que si vous faites vos courses et que vous écoutez ça, on va passer à côté de ce message sublime qui implique qu'on doit être bien assis au fond de sa chaise après avoir communié et pour être prêt à recevoir l'entièreté du message qui est ici proposé par le compositeur. C'est donc pour cela que je m'adresse à vous semaine après semaine pour faire découvrir toutes ces pépites, toutes ces petites merveilles pour que vous aussi, vous y soyez sensibles et que finalement, vous puissiez vous dire que vous avez envie d'en découvrir davantage parce qu'il y a tellement de langages qui ont été là pour nous dire que Dieu était présent. Et pour moi, c'est bien une preuve que Dieu existe, ces morceaux, tellement ils sont baignés et inspirés par l'Esprit Saint que je me dis, vraiment là, le pari est tenu et on fonce. Voilà pour aujourd'hui. Je suis désolé, peut-être que ça a été pour certains la douche froide, je l'espère pas. En tout cas, je continuerai à vous faire découvrir d'autres merveilles. Quant à moi, je viens un petit peu vous titiller sur une dernière chose, si quand même. Tout simplement, le CD, le premier CD de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin vient de sortir. Je dirige la Schola avec beaucoup de renforts, et on fait ça dans le cadre du centenaire de la mort de Gabriel Fauré. Ça fait 100 ans qu'il est mort, en 2024. Et donc, on a enregistré plusieurs de ses œuvres, en particulier son fameux Requiem, qui est extraordinaire, une œuvre musicale magique, avec le cantique de Jean Racine également. Donc, il y a non seulement le grand chœur que je dirige, mais également la maîtrise, donc vous entendez des voix d'enfants. Le disque est vraiment, vraiment une belle réussite, une belle surprise pour moi, donc je vous invite à l'acheter. Il y a également des œuvres de César Franck, dont une création mondiale à l'orgue et le fameux Dextera Domini, qui est un chef-d'œuvre, c'est l'offertoire du jour de Pâques. Je vous invite à l'acheter pour nous soutenir, parce que il est vrai que, vous savez, c'est compliqué aujourd'hui de monter une scola, parce que nous faisons venir les gens avec un très faible coût, et nous essayons de mettre en place des cours pour que des gens qui n'ont pas forcément accès au conservatoire puissent chanter et puissent finalement se convertir, et je peux vous dire que ça marche. Donc vous êtes plusieurs milliers d'auditeurs, je le sais bien, il y a 1000 CD en vente, le but du jeu c'est qu'à la fin de la semaine prochaine, il n'y ait plus rien. À vous de vous y mettre. Alors pour cela, c'est très facile, il suffit que vous alliez sur le site de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin, vous allez sur la boutique, et là, vous avez le CD. Le CD, ça nous permettra tout simplement de soutenir la Schola et de pouvoir continuer à faire nos projets, à apprendre, à payer les professeurs de technique vocale, à faire nos tournées en Occitanie ou à l'étranger, et de pouvoir continuer à faire vivre ce beau répertoire. Donc je vous invite vraiment à acheter ce CD sur le centenaire de Fauré. D'ici là, je vous dis à bientôt, musicalement et en liturgie, et je vous dis à très bientôt sur Point d'Orgue.